la découverte d'œuvres littéraires et de leurs auteurs, de page en page.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute d'une nouvelle émission littéraire de Page en Page, deuxième émission consacrée à l'écrivain Tristan Edern-Vaquette qui est avec nous en ligne au téléphone. Bonjour Tristan.
Bonjour.
On avait déjà fait une émission avec toi sur ton premier roman qui est déjà paru, Je gagne toujours à la fin, qui est disponible, que vous pouvez lire. D'ailleurs, on vous en a bien donné envie la première fois, j'espère. Vous pouvez appeler à la radio aussi pour le recommander. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième bouquin de Vaquette qui est en cours d'écriture, donc c'est de l'inédit. Et bah Tristan, je crois que tu nous as fait un espèce de polar victorien, mais pas que, comme à ton habitude. Je te laisse en parler.
Ouais, voilà, alors c'est pareil, on a essayé de définir très difficilement la semaine dernière, ou là, c'était il y a longtemps, je sais plus quand, le premier bouquin. On essayait d'expliquer que c'était à la fois un bouquin rigolo d'aventure, mais un bouquin de philosophie, mais c'est quoi ce bordel? Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire au départ, moi je suis parti pour faire un polar rigolo, dans les codes du polar, avec un huis clos, genre les je sais plus combien de petits nègres là, où t'as un endroit fermé, t'as un certain nombre de suspects qui sont limités, donc c'est qui,
bon oui, voilà, avec la dimension
psychologique, faut trouver le mobile, faut trouver le truc classique avec l'enquête policière, et avec de ça tout ce que sait faire très bien le polar français, c'est-à-dire le flic un peu usé, son parcours de vie, un peu de contestation sociale là-dessus, bon, il y a là-dessus. Et puis, ça, je ne vais pas dire que c'est un prétexte, parce que je tiens beaucoup à faire ce polar, ne serait-ce que pour rire, dans le, voilà, et à côté de rigolo et de jouer à ce code-là. Et puis je suis content de rentrer dans une forme très populaire, entre guillemets, très facile d'accès, à moi qui reproche de faire des travails difficiles. Je dis travail à dessein, parce que sinon c'est pas les réparations de ma maison, quoi, donc des travails difficiles. Donc ça m'amuse de partir là-dessus sur polar. Et donc, en fait, il y a trois parties dans le bouquin. Première partie, qui est on enclenche le polar, on présente un peu le flic, l'enquête, l'héroïne qui a été assassinée. La troisième partie du bouquin, qui est, enfin, on va trouver l'assassin, il y a toute l'enquête, qui est le salaud qui a fait ça. Et au milieu, il y a le vrai cœur du bouquin qui bascule sur un autre bouquin, qui est, ok, maintenant qu'on sait que la petite, elle est morte, avant qu'on trouve qui est l'assassin, je vais vous raconter sa vie in extenso. Donc c'est la vie de l'héroïne, et là on n'est plus du tout dans un polar, on est dans un bouquin, on va dire, social, psychologique, ou humain, ou transversal, qui parle de tout ça, et on va voir ce que c'est que la vie de quelqu'un qui naît dans un milieu pas très favorisé, pour pas dire défavorisé, sans vouloir faire pleurer, aujourd'hui en France, et quel peut être son parcours, si on ajoute à ça que c'est quelqu'un qui est doué d'une grande fragilité, d'une grande sensibilité, et d'un grand mal-être permanent. Comment on fait, comme on vient d'un milieu pas favorisé, ou ni favorisé culturellement, ni favorisé financièrement, aujourd'hui en France, et qu'en plus on est inadapté social de par sa fragilité, est vachement joli, comme quel parcours on peut avoir. Bon. Donc ça, on a un deuxième bouquin qui n'y a pas à voir. J'ajoute que dans ma tête, depuis le début, les deux étaient liés. Ce n'est pas deux bouquins différents où j'aurais pu faire le polar d'un côté et le bouquin psychologique de l'autre. Et pour bien expliquer ça, je vais expliquer le centre de ma problématique pour ceux qui ont vu Twin Peaks, la série de David Lynch, et Twin Peaks, le film de David Lynch. Pour aller vite, Twin Peaks, la série, c'est le polar. C'est-à-dire, l'héroïne a été tuée, on sait qu'elle a été tuée, et on suit l'enquête. Il est évident que pendant l'enquête, on a des informations sur la victime en permanence. Mais on ne la voit pas, vu qu'elle est morte, on ne la voit pas vivre. Et quand on sort de ça, David Lynch ressent le besoin manifestement de faire un film, parce qu'il veut qu'on voit son héroïne qui a été insuffisamment traitée dans la partie polar, parce qu'elle est morte, donc on ne la voit pas. Et quand, évidemment, on apprend dans la partie polar qu'elle prenait de la drogue, c'est pas la même chose que quand dans le film, on voit sa gueule, et on voit sa gueule bourrée de coke, complètement défoncée, et que là, on la voit prendre de la drogue. Et qu'il est évident que quand on voit sa vie à elle dans le film, on voit d'autres choses que dans la partie polar. Mais à l'inverse, les sous-jacents, les conséquences, ces relations humaines, elles sont beaucoup mieux montrées dans la partie polar. C'est pour ça que le polar a un tel succès, c'est que ça permet de montrer, après coup, de dire pourquoi et de dire, entre guillemets, dénoncer. Je voudrais donc me dire comment, moi, je ne vais pas faire deux, comme lui, il a fait deux objets, un polar d'un côté, un bouquin social de l'autre, comment je vais réussir à faire les deux. Ça a été vraiment la grande part de mon travail, et j'ai réussi à les lier les deux, c'est-à-dire que la partie centrale qui raconte sa vie est liée, en fait, par des parties d'enquête qui sont délinéarisées dans le temps. Ça paraît un peu intello, mais juste, je suis plus l'enquête, qui suit, qui a son propre cheminement temporel et qui a sa propre logique, mais je prends les différents morceaux de l'enquête en le linéarisant dans le sens de sa vie. Et je raconte par ces morceaux d'enquête et par les morceaux de son journal intime sa vie. Donc, par exemple, dans le cadre de son enquête, il va voir des gens qui l'ont connu quand elle était jeune. Ben, sa jeunesse, elle est racontée par des morceaux de son journal intime qui raconte sa jeunesse et par les gens qui l'ont connu à cette époque-là. Bon. Le procédé a été utilisé, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai juste poussé à bout. Et donc, on a cette espèce de bouquin social profond au centre qui est à la fois un bouquin humain qui raconte ce parcours de cette jeune fille fragile, mais qui est aussi un bouquin de critique sociale qui montre quelle est la place, quand évidemment on est fils de Sarkozy aujourd'hui, bon, on va finir chef de quelque chose, de l'EHPAD ou d'autre chose, bon, c'est l'arrêté de la France, c'est une société de caste. Quand on ne vient pas de ces milieux-là, quel espoir, quelle place on peut avoir en France, quelle place on peut trouver socialement, a fortiori, quand on est un peu différent et pas dans la norme dominante et qu'on ne rêve pas de devenir commercial cynique qu'on cule les autres. Donc c'est en ce sens-là où ça devient un bouquin à la fois psychologique, un bouquin sur la nature humaine, sur la fragilité humaine, mais aussi un bouquin social et par-delà politique, et que très immodestement me reprochera-t-on comme d'habitude, j'espère, le fil que j'ai tiré, c'était Les Misérables de Victor Hugo, qui est à la fois un bouquin de garce, que j'espère est mon bouquin, qui se lit bien, que jamais on s'ennuie, qui se passe toujours un truc, qui est un vrai bouquin d'amour, et j'espère que c'est il y a une belle histoire d'amour et qu'elle est bien racontée et qu'elle fait pleurer, qu'elle fait rire, qu'elle donne envie de faire des câlins et puis beaucoup de baisers et puis à côté de ça les Misérables est aussi un bouquin profondément subversif qui dresse un portrait au vitriol très, très dur de l'époque et qui est une critique sociale voilà, sans jamais être ennuyeux ni tomber dans la rebellitude à trois balles. J'essaye de faire tout ça, et je suis sur le chemin de faire tout ça. C'est une réponse atrocement longue.
Non, parce qu'elle développe bien, donc c'est pas atroce, c'est long, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, bah, tu fais bien de le préciser, parce que moi, en ayant juste les infos dont je disposais, bah, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent un peu à ton travail ont juste vu, tiens, il va faire un deuxième bouquin. A priori, ils nous disent, ça va être un polar victorien, mais à ma sauce. Donc le premier truc que je me suis dit, c'est, ça doit être un amoureux de polar. Il en a peut-être marre de voir des polars qui tournent toujours un peu avec la même recette. Il a envie de faire un polar bien comme il aime et en mettant d'autres trucs dedans qu'il a à dire. Alors qu'en fait, c'est pas exactement ça,
non,
d'après ce que tu me dis.
Ça.
Même pas du tout ça. Donc tu
pas
vois, tu fais bien
ça,
de le
fait,
préciser.
Moi, je suis pas du tout client des polars. J'en lis comme tout le monde. J'en ai plutôt lu pour bosser ça.
C'est pas ton dada, quoi, spécialement.
De quoi ?
C'est pas ton dada spécialement de
non,
taper des polars d'une store Burma,
moi,
du je sais pas quoi.
Ça m'amusait de jouer avec cette codification-là. Et au départ, moi, j'étais parti, l'histoire de ce bouquin, c'est j'étais parti pour écrire juste la partie polar, un bouquin pour... j'avais pas envie de me lancer dans un grand projet, très long, comme je fais d'habitude, c'est raté. Je voulais juste faire un truc récréatif, me marrer à faire, voilà, un polar rigolo, vite torché en deux mois, et puis basta. Bon, pour des raisons personnelles que je développerai peut-être à terme, mais peut-être pas tout de suite aujourd'hui, il se trouvait que j'ai pu fréquenter un peu précisément le milieu de la prostitution et le milieu des bars à champagne et tout ça, et que donc j'avais tout un décor. En fait, l'idée est partie au départ de ça. Je me suis dit, putain, j'ai un décor, j'ai plein d'anecdotes piquantes de l'intérieur qui sont rigolotes, je vais foutre ça dans un décor de polar, puis basta, je torche en deux mois. Puis plus j'ai commencé à travailler, plus je me suis rendu compte que c'était odieux de ma part de récupérer cet univers-là pour en faire un objet léger en retirant toute profondeur, et que plus j'avançais, plus je me suis en senti investi d'une responsabilité, on va dire, d'aller au-delà des apparences et du côté moustillant, voire carrément racoleur de ces milieux, pour essayer d'arriver vers des problématiques humaines plus profondes, puisque ma jeune fille fragile devient escorte au fur et à mesure du temps, et expliquer, j'ai voulu montrer comment sa fragilité, ses traumatismes humains, les traumatismes de son histoire psychologique et psychanalytique, et sa situation sociale, allaient tous dans le même sens, pour lui offrir une solution qui, à un moment, lui paraît valide, un peu comme dans Un prophète de Jacques Audiard. Finalement, il ne s'agit pas de défendre la prison ou de défendre la délinquance, mais à un moment, ce type-là, ce héros-là, trouve le bonheur qu'il n'aurait jamais trouvé dans la rue, ou il trouve le bonheur en prison, il trouve son chemin de vie en prison, là où jamais la société, vu d'où il vient, lui aurait proposé dans un métier normal. Donc ça, il y a une part de subversion ou d'interrogation qui m'intéressait de creuser, et j'allais là-dedans. Donc au départ, vraiment, le polar, c'était juste pour rire, et justement, très vite, je m'en suis libéré pour me dire, ok, c'est pas très intéressant, mais je vais le garder parce que si tu veux, narrativement, quand tu lis le bouquin social, quand tu sais dès les premières pages qu'elle finit escorte et qu'elle est morte, tu lis plus l'histoire pareille. Quand elle trouve un boulot et que c'est cool, tu dis pas, ah, c'est cool, elle va rester dans ce boulot. Tu sais qu'elle finit escorte. Quand tu te dis, elle a une super histoire d'amour, ah, elle va finir heureuse et avoir plein d'enfants. Ben non, je crois qu'elle est morte, là. Elle s'est fait assassiner, en fait, au début du bouquin.
Ouais.
C'est dans 2 mois, là, tu vois. Donc, c'est dans pas longtemps, en fait, ça va tourner court. Et je trouve que ça donne une puissance à la lecture. Le fait que tu lises le bouquin tel qu'il est fait, tu suis son parcours, mais tu sais que ça va mal tourner, ou tu sais que ça va tourner, et t'es obligé tout le temps de penser, tiens, cette personne qu'elle rencontre, elle a l'air vachement sympa, mais si c'était elle, l'assassin? Si c'était lui, l'assassin? Est-ce que ce serait pas finalement les gens sont... est-ce que ce serait pas un masque qui porte la personne? Donc ça met de la fourberie, de la méfiance tout le temps. Donc dans l'œil du lecteur, c'est vachement plus intéressant. Ça met une richesse et une défiance. Tout ce qui est écrit, tu t'en défies. Parce que c'est le principe du polar. Tu dis, et si c'était pas vrai? Et si juste il raconte ça au flic parce qu'il ment et que c'est pas la vérité? C'est ça qui est vachement intéressant. C'est ça cette dimension de polar qui est intéressante. C'est qu'en fait, on raconte sa vie linéairement. Mais tout ce qui est raconté, on ne sait jamais si c'est vrai, puisque c'est raconté par d'autres ou flics. Donc on ne sait jamais la part de mensonge, la part de réalité, et c'est ça qui met cette richesse, cette complexité.
Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis aussi, parce que ça me paraît assez inédit, c'est que tu es allé faire un vrai travail d'écrivain. Ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas chez tout le monde, quand on regarde les résultats produits. Pour ce qui est d'aller chercher de la matière dans le milieu de la prostitution, qui est un milieu dont on parle dans pas mal de bouquins parce que ça fait vendre, mais pour de mauvaises raisons. Ça appelle au bas instinct des gens parce que c'est une réalité sociale qu'ils ne connaissent pas, mais où il y a beaucoup de fantasmes et de rejets. Et toi, tu as été faire un vrai boulot là-dedans, je crois, tu vas me corriger si je me trompe, d'aller rencontrer, interviewer des prostituées, de comprendre une trajectoire sociale et psychologique qui amène à ça, de mélanger ça avec du polar, mais d'être ni dans le graveleux facile, ni dans le fantasme, mais peut-être de montrer une réalité qui est malaisée pour les gens, parce qu'elle est réelle justement, et qu'on voudrait peut-être
oui,
la cacher.
Oui, je suis entièrement d'accord deux fois, alors je rebondis deux choses que tu dis. Bon, d'abord, moi, je tiens pas à parler de la prostitution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je lis très peu de bouquins théoriques, de bouquins très très intelligents, et je lis du roman. Parce que je trouve que ce qui est beau dans le roman, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'à un moment, des idées, la quintessence de ça, c'est Les Misérables dont on parlait tout à l'heure, des idées vont s'incarner à travers des parcours de gens. Il ne s'agit pas de dire tous les bagnards sont Jean Valjean. Ça n'a aucun sens. Et de dire donner la liberté à tous les bagnards parce qu'ils ont une âme pure comme Jean Valjean. Ça ne veut rien dire, laissez-les voler leur chandelier et vous aurez que des Jean Valjean. C'est idiot. Par contre, que ça puisse exister à un sens et que des humains aient une profondeur et s'incarnent, voilà. Donc moi, pour citer Jean-Louis Coste, je ne crois qu'en l'individu nu. C'est pour ça que j'écris des livres et pas des grandes idées. Les grandes idées, elles s'effacent, les grands principes, ils s'effacent derrière des réalités. Donc moi, je ne tiens pas à parler de la prostitution. Je tiens à montrer le parcours d'une personne avec ses fragilités, avec ses traumatismes psychologiques, avec sa réalité sociale, qui l'a conduit à un moment comme ça. De la même façon que je citais tout à l'heure un prophète de Audiard, je ne pense pas qu'il parle de la prison. Il parle d'un parcours d'un type. Et d'autres vont être dans les mêmes circonstances complètement brisées. Il y a plein de prostituées qui n'auront jamais cette force incroyable qu'a mon personnage et ce désir de déviance profond. Je ne vais pas dire toute la prostitution est choisie, c'est faux. Il y a beaucoup de réflexions justement sur ce qui est la marginalité choisie et sur ce qui est la marginalité subie dans mon bouquin. Donc déjà, première chose. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre mon petit grain de sel là-dedans, tout le traitement que je peux entendre dans la prostitution est idiot. Il est soit dans le misérabilisme, ah, les esclaves des pays de l'Est, c'est horrible, elles se font taper, torturer, c'est de l'esclavagisme, c'est du viol, tout ce discours-là, soit on passe du tout au tout. Ah, cette vie mirifique des filles qui gagnent 14 000 euros par mois, que dis-je par mois, par semaine, par heure, oh là 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 là, et qui réussissent dans la vie grâce à leur cul, les salopes.
Alors, bon, parce que les gens qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent,
voilà.
Parce qu'ils n'ont pas été faire leur devoir.
Et ça n'est ni va vendre ton cul d'abord et tu t'apercevras que tu ne seras jamais assez bien payé, donc tu n'es jamais trop payé, même si les chiffres qu'ils racontaient, ensuite les chiffres qu'ils racontent sont que dans ce genre de journaux, 14 000 euros par mois, j'ai lu ça des fois, c'est complètement aberrant, oui, tu multiplies, mais c'est comme moi. Moi, un concert, ça m'est arrivé de gagner, allez, je crois, une fois 1000 euros sur un concert.
Oui, c'est du chiffre d'affaires, hein. C'est pas du bénéfice.
1000 euros, mais surtout, je gagne 1000 euros de l'heure, hein, on est d'accord, donc 35 heures par semaine, ça fait 35 000 euros.
Ça marche pas
donc
comme
ça. Donc je gagne 140 000 euros par mois, donc je suis imposé à l'ISF. C'est pour rire, j'ai fait une fois un concert à 1000 euros dans toute ma vie, puis c'est tout. Et le reste du temps, quand tu vas faire même une date, la réalité de ta date, c'est que tu bosses minimum 3 jours parce que t'as le transport pour y aller, tu montes le truc, tu le répètes, tu décharges le matériel. Toutes ces réalités-là, la prostitution, c'est la même chose. C'est pas vrai que quand t'es escorte, tu fais pas 10 passes par jour parce que t'as ta tête qui explose. Tu passes ton temps, t'as tes règles à un moment. Enfin, plein de choses qui sont juste des réalités problématiques. Donc l'un côté, d'en faire qu'une victimisation, qu'on dans le même temps, qui irait, l'exemple que je prends toujours, c'est quelle militante merveilleuse d'une association bien pensante va aller voir une fille à la caisse de Carrefour et va lui dire « Tu te rends compte? Arrête derrière ta caisse, la vie que tu te gâches, la vie de merde que tu as, tu n'as pas honte d'accepter le grand capital et d'être comme... » Mais la meuf, elle se pend le soir, personne n'irait faire ça. Et pourtant, et les arguments qu'elles ont, mais c'est la preuve que la prostitution, c'est pas bien. Qui voudrait que sa fille soit prostituée? Mais qui voudrait que sa fille soit caissière à Leclerc? Enfin, franchement, donc c'est la même chose. Évidemment que c'est pas. Après, il s'agit pas de dire la prostitution c'est mieux que d'être derrière une caisse à Carrefour. Il s'agit juste aussi de dire dans un monde qui est comme il est, avec de la précarité permanente, oui, à un moment, on peut comprendre que quand t'es en galère de thunes, aller gagner 300 euros en une passe d'une heure, ça peut te rentrer le truc. Mais te dire derrière, ah, c'est cool, t'as gagné 300 euros, alors que c'est hyper traumatique de se prostituer, c'est faux aussi. C'est cette nuance que je voulais un petit peu montrer. Dans ce dialogue et dans cette réflexion. Et puis je voulais aussi me montrer pareil notre vision des clients moins sympathique que ce qu'on nous montre, parce que d'un côté soit on nous en fait les prostitueurs, esclavagistes, tout ça, etc. Soit on en fait ouais c'est trop cool et c'est la société du contrôle social qui veut pas de nous alors que nous on est trop cool. Bon, je voulais montrer aussi que le mensonge il est en permanence présent chez les clients, qui disent tous qu'ils viennent acheter une relation charnelle, alors que c'est pas vrai. N'importe qui a couché avec quelqu'un un jour, une fille ou un garçon, c'est bien que tu mets toujours de l'affectif dans une relation charnelle. Donc ces gens-là, ils viennent rechercher une relation affective. Mais jamais ils diront, et jamais ils voudront, ils veulent à chercher une relation affective sans les contraintes, à commencer sans faire les efforts de plaire. Ah bah ouais, je suis moche, je suis gros, je suis con, j'ai rien à dire, mais je veux me sauter une meuf. Eh ben man, tu fais comme chacun de nous, tu fais des efforts, tu vois, du con. Et puis, sans s'engager, enfin, c'est absolument puant. Je voulais aussi donner d'autres visions de ça que dans tous les débats sur la prostitution chez mon ami Tadei comme chez les autres, on n'entend jamais en dehors de la victimisation ou de la mythification, dans les deux cas complètement idiotes. C'est aussi ça qui a fait que ça a été imbécile que j'ai voulu tirer pour, qui justifiait d'écrire ce bouquin, même si au final, maintenant qu'il est grandement écrit, je me rends compte que finalement, peut-être paradoxalement, mais la partie prostitution est très très minoritaire, au moins en nombre de pages, sur l'ensemble du bouquin. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus sa vie à elle de jeune fille, ses doutes, son mal-être, l'amour qu'elle ressent, l'amour que ressent pour elle le monsieur qui l'aime, la façon dont elle grandit à travers les livres et à travers ses doutes. Et finalement, comme beaucoup de personnes, le boulot qu'elle fait, c'est pas... forcément le plus important dans sa vie, même si une fois encore, c'est pas anodin de se prostituer. Voilà.
Donc c'est encore une fois, c'est comme tout ce que tu fais dans ton travail, c'est complexe, t'essayes de mettre beaucoup de choses, s'arrêter pour réfléchir.
Si ce que tu entends par complexe, comme toujours avec mon travail, c'est-à-dire « Ah, c'est incompréhensible, il y a des phrases en différents côtés, il y a des concepts, tout ça », non, une fois encore, c'est rigolo, enfin, c'est pas beaucoup rigolo, mais c'est rigolo, sinon il y a de l'histoire, ça se suit, il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Si maintenant, complexe, c'est dans le sens, c'est comme ça que tu l'entendais, j'entends bien, moi, de mon côté, c'est juste pas avoir des vérités simplistes, la prostitution, ouais, c'est trop cool, ou la prostitution, c'est pas bien, oui, effectivement, c'est complexe et mesuré. Oui, elle est née pauvre, donc c'est le salaud du grand capital qui fait que tous les pauvres, c'est les mêmes et ils sont exploités. Non, de l'autre côté, chacun emmène sa vie. Et si le fils Sarkozy réussit mieux qu'elle, c'est parce qu'il était plus méritant. Évidemment, non. Donc si on veut une boîte facile de droite, de gauche, pro-prostitutionnelle, anti-prostitutionnelle, pro-féministe, anti-féministe, tout ça, je ne sais pas.
On ne lit pas vaquette. si on veut ça. On lit pas Vaquette si on veut ça.
Voilà, on lit pas Vaquette si on veut des réponses simples, on lit Soral. Effectivement, on lit Soral si on est,
allez, tiens,
si on est d'extrême droite, comme il dit, d'extrême droite et pas d'extrême droite, qui aime pas les juifs mais qui est encore antisémite. On lit Zemmour si on est d'une autre forme d'extrême droite qui est la même ou pas, je sais pas, je m'en fous. On lit Le Monde diplomatique si on veut, qui est très bien, j'en doute pas, mais que, si on veut. Bah, si on sait d'avance ce qu'on vient chercher, on lit ça. Si on vient lire mon travail, on vient pour avoir de la complexité et de la finesse, quelque chose qui n'est pas forcément du binaire. Et c'est aussi pour ça que moi je suis content d'évoluer et de grandir dans mon travail, parce que on m'a souvent reproché de faire des choses complexes, on m'a jamais dit que je faisais des choses simplistes, mais souvent binaires, quoi, avec les bons d'un côté, ceux qui veulent être grands, les héros, les tyrannos exigeants d'un côté, et puis les corrompus de l'autre. Mon bouquin me passionne parce que ce nouveau-là, il y a toute une zone de gris partout. Il n'y a pas de vrai héros parfait. Elle, ma personnage, elle a plein de doutes, elle a plein de failles, elle a plein de lacunes. Et même les personnages qui pourraient être jugés un peu salauds dans le bouquin, je pense par exemple à Lorane, sa meilleure copine, eh ben il y a toute son histoire, il y a tous ses traumatismes, il y a ses douleurs, il y a ses fraîcheurs, et on la comprend avec une... C'est ça aussi d'avoir cet espace du roman où je peux profiter, c'est le personnage de colocataire. À un moment, je prends 100 pages et je raconte sa vie, intégralement sa vie. Et là, d'un coup, cette espèce de code un peu vulgaire qu'on pourrait juger trop vite comme ça, et que le lecteur a jugé peut-être un peu trop vite depuis 500 ou 600 pages, il voit sa vie, et il fait « Ah ouais, bah c'est peut-être plus complexe que ça, merde, peut-être que je la comprends mieux, la gamine. » Voilà. Et ça m'intéresse d'amener cette finesse et cette complexité. C'est ce que permet de faire le roman. La grandeur et la noblesse du roman, contrairement à ce que peuvent dire certains de mes collègues en me le mettant dans la gueule, mais tant pis pour eux, la grandeur et la noblesse du roman, et du roman français en particulier, et de la grande époque du roman du 19e, c'est montrer et démontrer. C'est qu'à un moment, Victor Hugo, il te montre ce que je disais tout à l'heure sans avoir expliqué, mais après, il t'explique le système d'organisation sociale et tu fais bien le lien entre les deux. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer des êtres humains qui vivent avec les contraintes d'un monde que j'explique et de démontrer et de montrer et que les deux sont intimement liés et de voir comment des idées et une pensée peuvent s'incarner sur des humains qui ont leur logique, leur finesse, leur bon côté, leur mauvais côté, leur complexité. C'est pour ça qu'un roman doit être complexe, parce que les humains, même les plus simples, ils sont très complexes.
Donc on retrouve peut-être ce qu'on avait déjà dans ton premier roman « Je gagne toujours à la fin », c'est-à-dire une approche personnelle, un traitement assez inédit, et puis une complexité de forme et de fond qui fait, comme tu dis, que puisqu'on veut une incarnation de certaines idées, pour ne pas parler de manière manichéenne de grands principes, c'est un peu plus touffu. Et un peu plus... quand on ne veut pas faire l'effort, on y voit de la contradiction. Puis quand on veut faire l'effort, on y voit de la complexité, dans le bon sens du terme. On retrouve cette ligne chez toi, dans ce deuxième roman ?
De quoi ?
On retrouve ça chez toi, comme dans « Je gagne toujours à la fin »,
oui,
dans ce deuxième roman ?
La grosse différence, pour ceux qui veulent un marqueur, pour ceux qui auraient lu ça...
Pour ceux qui ont lu ton premier roman, oui.
C'est globalement moins rigolo. C'est-à-dire qu'il y a toujours des passages rigolos. J'ai l'alter ego de mon Jasper l'Incroyable, qui est un personnage merveilleux dans le premier roman. Là, c'est ma Scheherazade, une meuf revue de banlieue et qui parle de façon complètement folle, qui parle complètement banlieue, qu'avec des mots, personne ne va comprendre un mot de qu'elle raconte, mais je pense qu'on comprend le sens, et elle a un lyrisme de banlieue de complètement fou. Bon, voilà. Mais globalement, c'est quand même peut-être moins rigolo que le premier. Il y a surtout... une dimension psychologique, réaliste, psychanalytique et de contexte social qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire dans mon premier bouquin, Vaquette, il est Vaquette, on ne sait pas de quelle famille il vient, on ne sait pas de quel milieu social il vient, Artémise, elle est Artémise, on a deux phrases sur d'où elle vient et ça suffit. Les sous-jacents qui font ton histoire personnelle ne sont pas présents. Là, c'est omniprésent. C'est-à-dire que à mon âge, j'ai pas écrit les deux bouquins au même âge, à mon âge, je sais aujourd'hui que pour comprendre les hommes, il faut écouter leurs pensées, il faut écouter les grandes valeurs qui sont importantes, telles que l'intégrité et le courage, je ne renie absolument pas ça, mais il faut aussi comprendre d'où ils viennent, de quel milieu social ils viennent, de quel milieu culturel ils viennent, comment ils ont digéré, quel traumatisme psychanalytique ils ont eu, comment ils l'ont digéré, ce qu'ils en ont fait. Une fois que tu sais tout ça, tu comprends un peu moins mal la profondeur et la complexité des humains. Et la troisième différence, c'est que je dirais que par rapport... Le premier bouquin, Je gagne toujours à la fin, est un roman éminemment, on va dire, individualiste, libertaire, élitiste, libertaire. Là, on n'est certainement pas de droite pour les imbéciles, mais en tout cas qui plaçait la valeur de l'homme au centre de tout. Là, on est dans un bouquin qui tient beaucoup plus compte de la dimension de déterminisme social, même si je ne réduis certainement pas les humains à ça, et que je montre que la grâce, le courage, la volonté, c'est l'équilibre. Si tu veux, une des nombreuses lectures de ce bouquin pourrait être l'équilibre périlleux qui existe entre déterminisme social et principe générateur de la volonté, quoi. Il y a encore, ce qu'il y a toujours eu dans mon travail, que quand on veut, on peut, que l'être humain, il est beau parce qu'il veut, parce qu'il est différent et qu'il va réaliser ses rêves. Et en même temps, il y a beaucoup plus que dans mes travaux précédents, la conscience que sur ce chemin-là se dressent les obstacles sociaux, les obstacles psychanalytiques une fois encore, les contingences des autres humains, les rencontres, tout ça. Donc, tout ça fait que tout ce qu'il y a, je pense, dans le précédent roman, il y est encore, j'espère. Je pense qu'il y a toute une dimension supplémentaire qui fait que ce bouquin est beaucoup plus long naturellement du fait de tous ces paramètres, en particulier les profondeurs humaines développées de tous les personnages secondaires ou pas.
Eh ben, je pense que ça aura donné envie de le lire aux gens qui nous écoutent.
Moi, ça me donne envie de l'écrire, surtout.
Toi, ça donne envie de l'écrire, donc ça tombe bien, parce qu'il faut que tu le termines à l'heure où on écoute, où on enregistre l'émission. Alors, on ne donnera pas de date, hein, puisque c'est un travail en cours, mais voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent savoir...
J'espère en 2015, mais comme l'an dernier, j'ai dit j'espère en 2014. Ouais.
Et la seule chose
que je sais, c'est voilà, on verra que je bosse comme un chien dessus et qu'il est hors de question qu'à un moment je privilégie le fait d'aller vite plutôt que d'aller bien. Donc je veux sortir le plus grand roman que je suis capable d'écrire. Si ça doit me prendre encore 3 ans, je vais trouver ça très long. Et je préfère sortir le plus grand livre que je peux en éventuellement 3 ans, même si j'espère et je pense pas que ça sera le cas, plutôt que de faire des compromis et de le sortir plus vite avec des compromis qui vont me rendre malheureux. Voilà.
Eh ben en tout cas, pour savoir où ça en est, il y a toujours ton site internet, crever-tous.com.
Oui, il y a mon Twitter, souvent maintenant je donne des nouvelles de temps en temps.
Vaquette est un Jones, il est sur Twitter.
Oui, mais j'ai trouvé en fait dans Twitter, je conçois que j'ai une utilisation très atypique quand je dis des autres tweets. Moi je ne commande pas du tout les conneries, je me suis gratté le cul le matin ou collant de telle chose, mais ça me permet quand juste, ben voilà, j'ai fini tel chapitre, plutôt que d'aller faire une communication officielle à un média ou de faire une page entière sur mon site pour dire voilà j'ai fini tel chapitre, j'envoie un tweet, bon off, encore un chapitre de plus fait, ouf, j'avance. Bon. Donc les nouvelles en temps réel sont souvent par tweet, voilà, au cas où.
Donc et le site et le tweet de Vaquette, voilà, pour tweets, savoir oui. Quand sort le prochain bouquin.
Immédiatement tu feras une émission spéciale pour dire que le bouquin est pris Goncourt.
Bah bien sûr, je te le souhaite. J'y crois pas trop, mais vu qui est le jury, je n'y crois pas, mais ce serait justice. Ouais. En tout cas, on va te le souhaiter. Merci Tristan d'avoir été avec nous. Puis bah on te réinvite si c'est possible. S'il sort avant 2025, on te réinvite, y a pas de souci quand il sera sorti.
Voilà.
D'accord.
À bientôt.
Merci Tristan. Salut.
Salut.